Karine Joriot.
Les négociations à Doha sur une trêve à Gaza sont sérieuses et positives, a déclaré le Hamas. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou serait par ailleurs en route pour le Caire pour y discuter d'un cessez-le-feu à Gaza, selon l'agence Reuters, qui évoque plusieurs sources. Des sources qui indiquent qu'un accord pourrait être signé ces prochains jours, toujours selon Reuters. Paul Watson a été libéré aujourd'hui. Le Danemark a rejeté la demande d'extradition du Japon, jugeant que la détention du militant écologiste a permis d'attirer l'attention sur l'illégalité de la chasse à la baleine. Dans un entretien à l'AFP, Paul Watson s'est dit très en forme pour son premier jour de liberté. Il aura passé 5 mois en détention provisoire au Groenland. Environ 1 million de Syriens déplacés par la guerre civile devraient rentrer dans leur pays durant le premier semestre 2025. C'est ce qu'estime une responsable de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés qui a demandé au pays de s'abstenir de procéder à des retours forcés. Selon elle, des milliers de personnes ont fui la Syrie en décembre lors de l'offensive éclair des rebelles qui a mis fin au régime de Bachar al-Assad et que des milliers d'autres sont rentrés dans le pays, principalement depuis la Turquie, le Liban et la Jordanie. Le géant Meta a écopé d'une amende de 251 millions d'euros, soit 236 millions de francs dans l'Union européenne, pour une faille de sécurité sur Facebook en 2018. Ce défaut avait permis à des pirates informatiques d'accéder à des données personnelles, pouvant inclure le nom complet, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone ou encore la date de naissance ou la religion, selon la Commission irlandaise pour la protection des données. Le régulateur inflige cette amende au nom de l'Union européenne, le siège européen de Meta, maison mère de Facebook se trouvant à Dublin. Les députés au Grand Conseil vaudois ont approuvé aujourd'hui à une large majorité le projet de budget 2025 du canton. Le déficit prévu se monte à 280 millions de francs après les retouches du Parlement. Les députés qui ont notamment décidé de sabrer la totalité de la subvention à l'association Avenir Social. Ils ont en revanche confirmé une revalorisation des rémunérations des curateurs privés à hauteur de 2,4 millions. Il faut parler à l'industrie du cycle pour améliorer la sécurité dans le cyclisme. Déclaration aujourd'hui du directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. Le milieu du cyclisme a été secoué par une succession de chutes parfois très graves cette année. Les championnats du monde en septembre à Zurich notamment avaient été endeuillés par la mort de la jeune Suisse Muriel Führer, 1 an après le décès de son compatriote Gino Meder lors du Tour de Suisse. Parmi les pistes évoquées par Christian Prudhomme, celle d'encadrer davantage le développement de matériel ou encore d'avoir des maillots qui peuvent réellement protéger les coureurs. La météo, quelques bandes, brouillard, sinon temps en partie ensoleillé, un maximum de 6 degrés cet après-midi. Demain, même type de temps, du stratus en dessous de 600 mètres et un temps en partie ensoleillé ailleurs. Il fera maximum 6 à 10 degrés avec un faible vent du sud-ouest sur le plateau. Et puis jeudi, arrivée d'une perturbation à partir de l'ouest en cours de matinée et qui touchera rapidement toutes les régions.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Avez-vous déjà rêvé de voler avec un goéland, vivre à l'année dans la forêt, parler avec des arbres, ou avec une rose, ou un serpent, et ramonner des volcans, parler jardinage, apiculture avec un romain de l'époque de César? Du lundi 23 au vendredi 27 décembre, de 9 à 10 heures, on s'envole en compagnie des Hobbits, de Jonathan Livingston le goéland, de Walden ou du Petit Prince. Je lis pour vous des pages qui font rêver, qui nous amènent loin. On réécoute les grands classiques dans la petite compagnie sur RTS Espace 2 et en replay, bien sûr. Joyeuses fêtes!
L'oreille d'abord. Catherine Buzer.
Avec la complicité de Sacha Unger à la régie, bonjour, bienvenue. Je voudrais vous dire ma surprise que Lily Boulanger ne soit pas considérée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la plus grande des femmes compositeurs de l'histoire de la musique, qui par ailleurs a tout pour exalter les imaginations sensibles. Elle était belle, elle était la première femme à être envoyée à Rome comme premier grand prix. Elle mourut à l'âge de 24 ans. Elle écrivit des œuvres remarquables avec une précocité qui fut aussi étonnante que celle d'un Arthur Rimbaud. Elle écrit des œuvres monumentales, qui sont des œuvres religieuses avec chœur, soli et orchestre. Voilà donc une jeune fille occupée à toute autre recherche, avec une indépendance totale. Ses œuvres ne sont pas démodées, tout au contraire, elles conservent aujourd'hui toute leur importance. L'œuvre de Lili Boulanger témoigne beaucoup mieux que je ne saurais le faire de son importance dans l'histoire de la culture française. Igor Markevitch. D'un vieux jardin, c'est le titre que porte cette pièce pour piano de Lili Boulanger, ici interprétée par Éric Lesage. Une pièce qui accompagne le témoignage d'Igor Markevitch, un témoignage qui donne envie de faire plus ample connaissance avec cette compositrice hors du commun qu'était Lili Boulanger. Oui, vous avez bien entendu Lili, qu'il ne faut pas confondre avec Nadia Boulanger. Nadia Boulanger, c'est Herr Professor. Avec son chignon strict, ses éternelles robes noires et ses petites lunettes cerclées, Nadia était une véritable icône dans l'histoire de la musique du début du XXe siècle. Pendant près de 75 ans, cette grande pédagogue a vu défiler dans son salon le gratin de la musique du XXe siècle. Elle a régné en maîtresse absolue sur la musique de son temps, depuis son appartement parisien du 9e arrondissement. Eh bien, saviez-vous que Nadia Boulanger avait une sœur appelée Lili, de 6 ans sa cadette. À la mort de leur père, Mademoiselle a pris la jeune fille sous son aile et l'a encouragée à devenir musicienne. Et Lili avait un véritable don pour la composition. On dit même que dans ce domaine, elle dépassait largement sa sœur aînée. Malheureusement, la jeune femme a connu un destin aussi tragique que fulgurant. Elle a été emportée par la tuberculose à l'âge de 24 ans, laissant derrière elle une œuvre musicale d'une qualité exceptionnelle. Et c'est à la demande d'une fidèle auditrice de L'Oreille d'abord, Madame Nadia Coco, que je vous propose aujourd'hui et demain de faire plus ample connaissance avec cette prodigieuse compositrice au destin si tragique. d'un matin de printemps, un poème pour orchestre de Lily Boulanger. Nicolas Zepp-Snyder dirigeait l'Orchestre National de Lyon. Lily Boulanger est née à Paris le 21 août 1893. Son nom de baptême complet est Juliette Marie-Olga. Elle voit le jour dans une famille de musiciens. Son père, Ernest Boulanger, est compositeur et professeur de chant au Conservatoire de Paris. Il a remporté en 1835 le prestigieux Prix de Rome. Les grands-parents paternels de Lily sont également musiciens. Le grand-père est violoncelliste et la grand-mère une cantatrice, fêtée à l'Opéra Comique. Les origines de sa mère sont plus mystérieuses. Cantatrice, Raïssa Amichetsky se disait « princesse russe », même si son ascendance aristocratique ne faisait aucun doute pour ces deux jeunes filles. Deux filles naissent donc de ce mariage heureux, Nadia Boulanger et 6 ans plus tard Lily. L'ambiance familiale est propice à l'étude de la musique, d'autant plus que de nombreux musiciens fréquentent la famille. Fauré, Gounod, Saint-Saëns et Massenet sont des habitués du salon Boulanger.
Thank you.
Première Slovaque, c'est le titre que porte le final de ce concerto pour piano et orchestre de Jules Massenet. Nous l'écoutions ici dans l'interprétation de Stephen Combe au piano, accompagné par l'Orchestre symphonique de la BBC écossaise, direction Jean-Yves Ossons. Jules Massenet était donc un familier du Salon Boulanger. Lily Boulanger a 2 ans lorsqu'elle contracte une méchante pneumonie qui affaiblit considérablement son système immunitaire. Sa vie durant, la jeune femme va souffrir des conséquences de cette fâcheuse maladie et grandir dans la souffrance. Ses douleurs physiques et psychologiques vont profondément marquer sa musique, qui se distingue généralement par sa couleur sombre et grave. Elle était consciente de sa destinée très courte, explique sa sœur Nadia Boulanger, et elle a donné le meilleur de son activité en des pensées d'une gravité qui eussent été exceptionnelles à 20 ans et qui étaient éblouissantes chez une toute petite fille. Elle était éclairée par cette douleur.
Thank you.
Sarah Nemtanou, accompagnée par Anne de Fornel, nous offrait ici deux pièces pour violon et piano de Lily Boulanger. La première est intitulée tout simplement « Pièces pour violon et piano » et la seconde porte le titre de « Nocturne ». Dans son beau livre sur les compositrices en France au XIXe siècle, Florence Launay rapporte que dans ses jeunes années, Lily Boulanger voulait devenir médecin et que contre toute attente, elle témoignait d'une aversion précoce pour la musique qu'elle entendait constamment autour d'elle. « J'ai grandi comme une enfant ne pouvant pas supporter la moindre note de musique », rapporte Lily. « Je me trouvais presque mal, je hurlais, on ameutait des populations. Une note, je ne pouvais l'entendre. De la rue, on entendait mes sanglots. Et les gens venaient. « Qu'est-ce qu'il y a, madame, votre fille est malade ?»« Non, elle ne peut pas supporter la musique. » Mon père avait de grands rideaux pour donner ses leçons et ne pas déranger sa malheureuse pauvre folle d'enfant. Je n'avais jamais approché le piano de ma vie, jamais, c'était un monstre qui me terrorisait. Et puis, un jour, brusquement, je le découvre, avec passion. Entendant les pompiers passer dans la rue, je me suis assise au piano pour essayer de retrouver les notes. Je vois encore mon père debout disant « Quelle drôle de petite fille nous avons !» parce qu'il avait été troublé. Et de ce jour-là, ce fut la musique, toute la journée. On ne pouvait plus me faire quitter le piano. Cortège et d'un jardin clair, ce sont deux des trois pièces pour piano de Lily Boulanger, ici interprétées par Elisabeth Pion. Rapidement, Lily Boulanger fait preuve d'un don inné pour la musique. Dotée de l'oreille absolue, elle sait déchiffrer les partitions avant même de savoir lire. Gabriel Fauré, qui est un ami de la famille, est émerveillé par sa précocité. Il lui donne ses premières leçons de piano. 60 ans après la mort de Lily, Nadia se souvient encore de ses débuts musicaux précoces. Elle était tellement douée, dit-elle, que tout petit bébé, elle chantait. À 6 ans, elle chantait Fauré, qui l'accompagnait volontiers. Elle pouvait déchiffrer des mélodies auxquelles elle ne devait rien comprendre, mais elle semblait comprendre tout.
Thank you.
Le scherzo du quintet avec piano de Gabriel Fauré, Éric Lesage accompagné de son piano les cordes du quatuor Ébène. L'éducation musicale de Lily Boulanger est toutefois quelque peu erratique, notamment à ses débuts. Écoutons encore Nadia Boulanger se souvenir. Dès sa petite enfance, Lily se promène à travers la musique, chantant, travaillant divers instruments, mais ne se décidant à rien. Quel monde intérieur construit-elle cette curieuse petite fille si précocement dessinée ? Souvent confinée à la maison par sa mauvaise santé, Lily ne suit qu'irrégulièrement des cours de musique. Ses professeurs viennent le plus souvent à domicile. Elle travaille ainsi le piano avec Raoul Pugnot, étudie le violoncelle, la harpe. Son professeur est le célèbre harpiste Alphonse Hasselmann. Elle travaille également l'orgue. Lorsque sa santé le lui permet, elle accompagne volontiers sa sœur Nadia au conservatoire et assiste en auditrice à ses cours d'harmonie et d'accompagnement. Elle suit également les cours d'orgue que Nadia prend avec Louis Vierne. Elle fréquente également la classe d'orgue d'Alexandre Guillemont et suit toujours en auditrice des cours d'histoire de la musique. Son éducation musicale se fit ainsi par imprégnation, avec des périodes de pratique musicale fréquemment interrompues par ses diverses maladies. Lily lisait énormément et a appris plusieurs langues en autodidacte. À 16 ans, elle a déjà composé quelques pièces d'inspiration religieuse pour soliste, chœur et orchestre, et des études pour piano, qu'elle détruira après avoir approfondi sa formation. Car bien plus que la pratique instrumentale, c'est la composition qui l'attire. Et de fait, dès l'âge de 16 ans, poursuit Nadia, son esprit va s'engager dans cette voie qu'elle n'abandonnera plus. La qualité de son écriture se manifeste dès ses premières tentatives. De ses œuvres de prime jeunesse ne subsiste qu'une valse en mi majeur, composée en 1906. En 1910, sa première mélodie, « Attente », sur un poème de Maurice Maeterlinck, est la première de ses œuvres publiées. Tante, c'est une mélodie sur un poème de Maurice Maeterlinck de Lily Boulanger, sa première mélodie publiée. Stéphane Degout était accompagné au piano par Anne de Fornel. En janvier 1912, Lily, âgée de 19 ans, est officiellement admise au Conservatoire de Paris dans la classe de composition de Paul Vidal, ce qui est assez rare pour les femmes à l'époque. L'ambition de la jeune femme est de se présenter au fameux Prix de Rome, un concours prestigieux qui doit permettre aux gagnants de séjourner à la Villa Médicis de Rome, de se consacrer librement à la composition et d'être officiellement publiée. Dès 1911 déjà, elle se prépare à la grande épreuve en pratiquant à son domicile ses propres mises en loge et travaillant sur des sujets proposés lors des éditions précédentes du concours. À la fin de l'année, Lily présente à l'examen semestriel de composition « Renouveau », une cantate pour soli, chœur et piano, ainsi qu'un lead pour baryton, chœur et orchestre, intitulé « Pour les funérailles d'un soldat ». Son travail est récompensé par le prix Le Pôle. Pour les funérailles d'un soldat, une cantate pour baryton, chœur et orchestre de Lily Boulanger. Mark Stringer dirigeait le chœur symphonique de Namur, l'orchestre philharmonique de Luxembourg, avec en soliste Vincent Le Textier. Cette cantate a valu à la jeune femme son premier grand prix. Forte de ses premiers succès, Lily décide de s'inscrire officiellement au Grand Prix de Rome. Nous sommes au printemps 1912. Mais la maladie qui l'afflige ne lui permet pas de franchir le premier tour et l'oblige à se retirer de la compétition. Elle tente une nouvelle fois sa chance l'année suivante, en mai 1913. Toutefois, sans grand espoir de décrocher le sésame, car jusqu'ici, aucune femme ne l'a encore remporté. D'après des critiques de l'époque, le jury est réputé pour être particulièrement misogyne. Lily compose une cantate, Faust et Hélène, et à la surprise générale, accède cette fois-ci au second tour de la compétition. Et elle obtient même la seconde place, en compagnie de son ami Marcel Dupré et quelques autres candidats. Après l'audition de sa cantate, Faust et Hélène, Lily Boulanger se voit attribuer le premier prix par 31 voix sur 36, quasi à l'unanimité. Le procès-verbal de l'Académie des Beaux-Arts dit « Intelligence du sujet, justesse de la déclamation, de la sensibilité, de la chaleur, sentiment poétique, orchestre intelligent et coloré, cantate remarquable. » À cette appréciation très académique, Florence Launay, la musicologue, ajoute encore celle que Claude Debussy publie dans la revue musicale. Mademoiselle Lily Boulanger, qui vient de remporter le Grand Prix de Rome avec Faust et Hélène, épisode lyrique d'après le second Faust de Goethe, poème d'Edouard Adenis, n'a que 19 ans. Son expérience des diverses manières d'écrire la musique en a bien davantage. Il y a bien ça et là les petites ficelles avec lesquelles on noue les fins de phrases dans ce genre d'ouvrage. Seulement, Mademoiselle Lily Boulanger y met plus de fine rouerie.
d'elle.